Par convention, les premières places vont aux gens que l'on veut honorer. C'est le cas pour toute célébration officielle, pour les tribunes d'un match sportif, pour les repas de mariage, et même autrefois dans les églises où il y avait des chaises et des bancs réservés, ce n'est plus le cas depuis quelques années quand même. Au fait, dans quelle catégorie est-ce que nous situons Jésus ? Dans celle des gens importants que l'on veut honorer, ou bien dans celle des gens qui ne comptent pas ou si peu ? Pour chacun de nous, Jésus compte. C'est quelqu'un d'extrêmement important. Mais en même temps, il se met du côté des serviteurs, ce qui était le cas dimanche dernier, et des laissés pour compte. J'en tire une première conclusion. Contrairement à la société, il n'y a pas fondamentalement de préséance dans l'Église. Je crois même que Jésus nous invite à mieux regarder, à mieux voir les petits, les gens sur lesquels parfois glisse notre regard. Il nous invite à les regarder eux et non pas à le regarder lui, même et surtout si nous pensons que lui seul compte. Il nous dit que n'importe qui est plus important que lui-même. Les premières places, premières selon l'opinion commune, seraient en même temps en quelque sorte dangereuses pour celui ou celle qui jouerait des coudes pour y parvenir ou qui pense que ça va de soi qu'on lui donne la première place. Parce qu'on peut être délogé gentiment, fermement, par l'organisateur qui va mettre quelqu'un de plus important que moi. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Christ est sans doute la personnalité la plus importante, car il s'est le plus abaissé. Lui, dont la vie et la mort et la résurrection disent Dieu, s'est abaissé afin de dialoguer avec nous. Lui considère aujourd'hui que chacun de nous est supérieur à lui-même. Lui, il a pris la dernière place. Il a été arrêté, jugé, condamné, crucifié entre deux bandits. L'itinéraire du Christ, notre Maître, est un chemin de sagesse. Le vieux Ben Sira, ce professeur caustique qui vivait à Jérusalem 200 ou 300 ans avant Jésus, prévenait ses élèves « Plus tu es grand, plus tu dois t'abaisser » et il ajoutait « La condition de l'orgueilleux est sans remède ». Or, il y a un orgueil qui ne dit pas son nom. Quand vous leur partagez des choses qui vous tiennent à cœur, donc que vous vous livrez un peu vous-même, il peut arriver que parmi les interlocuteurs, il y en a qui vous disent « Ah ben justement, c'est comme moi !» Ou bien « Ah ben moi aussi, il m'est arrivé de… » etc. Vous vouliez parler un peu de vous, et il vous parle longuement d'eux, vous obligeant, du coup, à une humilité forcée. Or, la véritable humilité est un choix, une décision, un combat contre soi-même, contre ce moi qui aimerait être le centre du monde. Combat que Jésus vivra à Gethsémani. Non pas ma volonté, mais la tienne, dit-il à son père. Jésus s'abaisse, se dépossède de son moi pour tout remettre à Dieu son Père. Et c'est ainsi qu'au cœur de notre quotidien se dessine la vraie humilité. Elle ne se complaît pas dans les rebuffades ou les épreuves, elle n'est pas recherche systématique de la dernière place, elle est participation à l'œuvre de Dieu, œuvre de salut, bonheur de l'humanité, une tâche, un rôle, une mission qui nous dépasse de beaucoup. Tâche, rôle, mission auquel nous sommes invités en communion dans l'Eucharistie, au don que le Christ, serviteur, fait de lui-même.